en toute fin de séance, et on saluera aussi les personnes qui se joindront à nous durant cette séance. Mais prions pour l'instant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment encore riche, Seigneur, à regarder dans ta parole et à être instruit et nourri par elle. Je demande, Seigneur, que tu ouvres notre compréhension, que tu ouvres notre entendement à ta parole, que nous puissions saisir ta pensée, afin, Seigneur, de nous plier à ta volonté, à tes désirs pour nous. Non pas, Seigneur, comme une chose forcée, mais comme voulant plaire à notre Maître, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Alors ce matin, Seigneur, merci de nous abreuver, merci de nous nourrir. Merci, Seigneur, d'étendre notre compréhension sur ta parole. Et merci, Seigneur, de te révéler à nous. Tu nous dis, Seigneur, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et voilà ce que nous faisons ce matin. Nous nous approchons de toi afin de mieux comprendre ta parole, afin de mieux comprendre ta volonté et afin d'être, Seigneur, au diapason avec tes plans et tes projets pour nous. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère qui écoute en direct ce matin, mais aussi tous ceux qui, par la suite, auront accès à cette vidéo. Que tu puisses, Seigneur, les bénir. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, simplement fermer un petit écran. Alors, je relis pour vous le texte qui a été à la base de notre échange tout au long de cette semaine. Un texte bien connu dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et le verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je répète, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors, on a vu que ce chapitre était, à part ce dernier verset, était consacré essentiellement à la thématique de la résurrection des morts. Paul va parler à l'église de Corinthe et par ricochet à l'ensemble des croyants qui auraient un jour accès à ce texte, en leur disant que Jésus effectivement est mort et ressuscité des morts et que nous tous en tant que croyants sommes appelés aussi à connaître la résurrection des morts si effectivement nous passons dans l'éternité avant que Christ ne vienne chercher son Église, mais même lorsque on pourrait être encore vivant et que l'avènement se passe, Paul va parler de ce corps qui va être glorifié, qui va être transformé à la rencontre de Dieu. Et il va dire à l'Église, en raison de cette croyance, en raison du fait que vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se déroule, qui existe après la mort, on vous invite tous donc à travailler, à être ferme, à être inébranlable, à travailler de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est effectivement cette dernière phrase que nous étudions, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quatre mots importants. Trois qui se ressemblent, un qui est différent, le terme savoir, donc sachant, qui est au participe présent, savoir qui se dit eido, E-I-D-O, E-I-D-O, mais après ça on a trois termes, kopos, kenos, kyrios, qu'on va étudier aussi ce matin. Alors, eido, savoir, comprendre, saisir, percevoir, chérir, faire attention. Ici, Paul est en train de dire, je veux que vous compreniez une chose importante. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En fait, lorsqu'il parle du eido, lorsqu'il parle de comprendre, il veut que le peuple de Dieu, en commençant par ses frères et ses sœurs de l'église de Corinthe, mais nous de surcroît à cela, qu'on puisse vraiment saisir ce que représente vraiment travailler pour Dieu. On a vu à travers cette semaine comme quoi il nous fallait être ferme, qu'il nous fallait être inébranlable dans notre foi, qu'on ne pouvait pas, qu'on ne devait pas être capable de nous déraciner, de nous faire basculer d'un côté ou de l'autre, et qu'on devait travailler constamment de mieux en mieux pour Dieu. Il est important de savoir que le travail pour Dieu est une partie intégrale de notre vie, et si vous préférez, de notre vie chrétienne. Et ici, je veux m'arrêter juste un instant ou deux. Il y a trop de gens, et je ne cesse de le répéter, qui viennent à Jésus comme on vient dans un club de vacances, qui viennent à Jésus, qui rencontrent le Seigneur et qui ont cette fausse conception que à partir de ce moment-là, tout est terminé, que nous n'avons plus rien à faire et que nous pouvons tout simplement nous satisfaire d'avoir été sauvés. Et ça, c'est la grande erreur qui s'est glissée dans l'humanité et dans la chrétienté à cause de la religion. La religion, notamment la religion traditionnelle, nous laisse croire, nous fait penser que parce que mes parents m'ont baptisé en tant que bébé et que j'ai été officiellement inclus dans l'église traditionnelle, alors je suis sauvé. En partant, on ne peut pas prendre la décision pour qui que ce soit d'autre que pour nous-mêmes quant au salut. Voilà pourquoi le baptême ne se fait pas lorsqu'on est bébé, mais se fait lorsqu'on a compris que nous sommes dans un état de pécheur et que nous avons besoin d'un sauveur et que nous reconnaissons Jésus comme le seul, l'unique sauveur pour l'ensemble de l'humanité et comme seule voie, la mort de Jésus, comme seule voie qui mène au salut. Mais de surcroît à cela, très souvent, lorsque on se dit appartenir à tel groupe ou à tel groupe, à telle faction de la chrétienté, on proclame ces choses-là comme si ça voulait dire que parce que j'appartiens à ce groupe, parce que je fréquente occasionnellement l'église, ou même parce que je fréquente à tous les dimanches l'église, ben je suis sauvé. Il n'y a pas un mensonge plus grand que cela. Et c'est le danger de la religion. Le danger de la religion, c'est de nous laisser croire que nous sommes suffisamment bien pour être sauvés. Aucun d'entre nous ne mérite le salut à part par la grâce de Jésus. Mais le salut est simplement le point de départ. Tu ne peux pas prétendre être sauvé. Tu ne peux pas prétendre être chrétien sans comprendre qu'un chrétien est un disciple. Donc, un chrétien est un serviteur. Dès que nous venons à Christ, dès que nous le recevons comme maître et comme seigneur et comme sauveur, nous devenons serviteurs de Dieu. Et un serviteur, pour qu'il soit pleinement récipiendaire de ce titre, doit servir. Si je ne sers pas, je ne peux pas me déclarer serviteur de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit servir. Et il est important que nous aussi puissions comprendre ce que représente vraiment le travail de Dieu. Travailler pour Dieu, ce n'est pas venir à l'église dimanche matin. Travailler pour Dieu, c'est pousser pour que le royaume de Dieu avance. Travailler pour Dieu, c'est faire des disciples de toute nation. Travailler pour Dieu, c'est amener des âmes à Christ. Travailler pour Dieu, c'est amener des brebis dans la bergerie. Si je ne fais que fréquenter l'église, si je ne fais que venir à l'église et je ne fais rien d'autre, je ne suis pas en train de servir. Et je dois me poser la question, si je ne suis pas en train de servir, suis-je vraiment un serviteur de Dieu? Je ne me lasserai jamais de parler là-dessus. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu et se doit de servir. Il n'y a ni chômage, ni sabbat perpétuel, ni retraite. Nous sommes des serviteurs de Dieu depuis le jour 1 de notre conversion jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. Et les gens qui pensent que même dans l'éternité, on tombe dans cet état de je ne sais trop quoi, cette image qu'on a parfois, on est sur un nuage, puis on joue de la harpe, on joue de la sitar et des choses comme ça, puis la seule chose qu'on fait pendant l'éternité, c'est de louer puis chanter des cantiques. Vous allez être surpris. dans le royaume de Dieu, il y aura des tâches. Même dans l'éternité, nous resterons et nous demeurerons des serviteurs de Dieu. Et il y aura une hiérarchie dans le service. Il y aura une hiérarchie dans les occasions de mettre à contribution nos capacités. Donc, dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, nous serons aussi des serviteurs. Nous nous préparons ici-bas. Oui, nous aurons des temps de louange et d'adoration et d'émerveillement dans la présence de Dieu et nous serons effectivement béats par le côté merveilleux que nous découvrirons de Dieu, mais nous serons pour toujours des serviteurs de Dieu et nous servirons même dans l'éternité. Donc, il est important que nous comprenions, je ne peux pas me décrire comme enfant de Dieu si je ne sers pas. Un enfant de Dieu sert. Donc, si tu n'avais pas compris cette notion-là, à l'instar de Paul, j'utilise le même terme « eido » pour que tu comprennes, pour que tu saisisses, pour que tu puisses percevoir et que tu fasses attention et que tu chérisses cette notion de travail. Un enfant de Dieu travaille. Il ne fait pas que venir à l'église. Ne tombe pas dans le piège de la religion en croyant que parce qu'à l'occasion tu viens ou parce que constamment chaque dimanche tu viens ou parce que depuis le confinement tu te connectes à tous les matins et à tous les soirs lorsqu'on a des assemblées sur Internet. Ne crois pas que parce que tu te connectes, tu es nécessairement un serviteur de Dieu. Un serviteur travaille. Alors nous devons travailler. Il est important que nous aidons la chose, que nous puissions comprendre la chose et que nous fassions de cette chose un fait actif et réel dans nos vies. Alors les trois autres termes, kopos, kenos, kyrios, travail, vain dans le Seigneur. Travail, kopos, quelque chose qui est vain, kenos, et Seigneur, kyrios. Alors la première notion, concernant le kopos, K-O-P-O-S, je répète, K-O-P-O-S, qui veut dire se faire du trouble, se faire du tracas, un labeur qui est intense. C'est pas juste une petite tâche, c'est un labeur qui est intense et je vais prendre une deuxième définition tout à l'heure, mais j'ai d'abord expliqué la première. Donc, kopos, une tâche. Comprenons une chose, le travail en soi est demandant. Tout travail va être exigeant. Tout travail va requérir des efforts, va requérir du temps, va requérir de l'énergie, va requérir une présence de ta part. C'est vrai dans ton travail de tous les jours chez ton employeur, mais c'est encore tout aussi vrai pour le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas reposant. Le travail de Dieu ne se fait pas sans effort. Le travail de Dieu peut être fait avec énormément d'allégresse, peut susciter énormément de joie, mais le travail de Dieu, comme tout autre travail, a aussi un coût. Donc le travail de Dieu va te demander des efforts, va te demander du temps, va te demander une consécration, va même te demander une sanctification, puisque n'importe quel autre travail, tu peux le faire dans n'importe quel état qui est le tien, mais le travail de Dieu, si tu veux que Dieu reçoive l'œuvre de tes mains, il faut que tes mains aient été purifiées, il faut que ta vie soit sanctifiée, sinon Dieu ne peut pas recevoir ton offrande. Donc le travail de Dieu va être exigeant encore plus que le travail de ce monde. Et ça, c'est une chose que plusieurs personnes oublient ou que plusieurs personnes font fi de ce fait-là, que le travail de Dieu est exigeant. Oui, comme je le répète, ça se fait avec joie. Je dis souvent que je fais le plus beau métier du monde parce que je sers Dieu. Je fais le plus beau métier du monde parce que je fais exactement ce pourquoi Dieu m'a créé. Mais même si je fais ce pourquoi Dieu m'a créé, même si j'ai énormément de plaisir, de joie, d'allégresse et de bénédiction qui découle de faire ce travail, je suis conscient d'une chose, le travail de Dieu me demande du temps, le travail de Dieu me demande des efforts, le travail de Dieu me demande d'être consciencieux dans ma tâche, le travail de Dieu me prive d'un temps de loisir, me prive d'un temps de repos, me prive de dépenser mon énergie à d'autres choses. Donc le travail de Dieu est exigeant. Mais kopos veut dire aussi se frapper la poitrine. Et se frapper la poitrine assez sèchement et assez durement. Et je regardais un peu ce que pouvait représenter cette image de se frapper la poitrine. Deux choses. Lorsqu'un soldat romain, on se rappelle à cette époque-là, lorsque Jésus vient sur cette terre et lorsque Paul écrit la lettre aux Corinthiens, l'empire qui domine cette période de l'humanité, c'est l'empire romain. Et rappelez-vous, quelle est la salutation des Romains. Oui, il y avait le Ave César avec le bras tendu vers le haut, mais les soldats romains avaient plutôt l'habitude de se frapper le plastron en disant Ave, en saluant la personne et en se frappant durement le plastron. Et ça, c'était aussi un signe d'engagement. Et lorsque Paul va utiliser le terme kopos, avec l'image que les gens connaissent du fait de se frapper la poitrine, il y a deux images ici qu'on voit. Il y a cette image du soldat qui s'engage à travailler pour son général, pour la cause, pour sa nation. Et nous savons que nous sommes des soldats, et ce faisant, nous devons nous engager à la chose. Mais aussi cette pensée et cette image, vous savez, lorsque vous parlez de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et parfois vous allez vous frapper la poitrine tellement la chose est émotive, suscite des émotions en vous. Et c'est cette même pensée qui doit nous habiter lorsque nous travaillons pour le Seigneur. On ne devrait pas travailler pour le Seigneur avec peu d'émotions. On ne devrait pas travailler pour le Seigneur comme si c'était une tâche banale. On ne devrait pas faire l'œuvre de Dieu avec un certain dégoût ou un certain mépris. Le travail de Dieu devrait susciter chez nous un engouement profond, devrait susciter chez nous une émotion, une motivation pleine du fait que lorsque je parle de cela, je dis « Hey, je suis en train de travailler pour Dieu. Moi, je suis en train de travailler pour Dieu. Moi qui ne méritais pas d'être appelé enfant de Dieu, maintenant je suis même un serviteur du Dieu Tout-Puissant. » C'est ce genre d'image-là, ce genre d'émotion qui doit brûler en nous. Alors, je ne sais pas comment tu travailles pour le Seigneur. Je ne sais pas si tu réalises pour qui tu travailles. Je ne sais pas si tu réalises le privilège qui t'est donné de travailler. Ce n'est pas un fardeau. La Bible nous dit que son joug est léger, donc tu ne peux pas considérer le travail de Dieu comme quelque chose qui est pénible émotivement, qui est lassant. En fait, quand tu penses que le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, te donne une part à jouer avec lui, comment tu pourrais faire ce travail autrement qu'avec joie, qu'avec dévotion, qu'avec dévouement, qu'avec une motivation hors norme. C'est ça la pensée qu'on doit avoir lorsqu'on travaille pour Dieu. Pense simplement, je travaille pour Dieu. Est-ce que ça suscite chez toi un sourire ou ça te laisse de marbre? Si ça te laisse de marbre, il y a un problème. Tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien perçu, tu n'as pas bien saisi le privilège qui t'était donné de travailler pour le roi des rois. Donc, kopos, oui, le travail est exigeant, oui, le travail est demandant, mais kopos, c'est un travail qui se fait avec des ouvriers qui sont pleinement engagés, pleinement motivés, qui sont remplis d'une émotion vive juste à la pensée de travailler pour leur Seigneur. Deuxième terme avec un K, le terme kénos. Votre travail n'est pas vain. Votre travail n'est pas vain. La pensée ici, c'est que il n'y a pas de labeur, de tâche, de travail plus justifié et nécessaire que le travail de Dieu. Pense à n'importe quelle fonction, même la plus noble, que tu pourrais avoir ici-bas sur terre. Cette tâche-là ne veillerait qu'au bien-être temporel de quelqu'un. Même si tu étais neurochirurgien et que tu réussissais à opérer des gens et à leur assurer une plus longue vie, ton mandat, ton travail n'aurait qu'une portée de ce côté-ci de l'éternité. Alors que le travail que tu fais pour Dieu a une portée éternelle. éternel. Donc, il n'y a pas une tâche plus grande, plus noble, plus importante que de travailler pour Dieu. Voilà pourquoi hier, je disais, avant que tu ne sois médecin, tu es un chrétien qui sert Dieu. Avant que tu ne sois un premier ministre, tu devrais être un chrétien qui sert Dieu. Avant d'être un avocat, tu es un chrétien qui sert Dieu. Peu importe quelle est ta profession, peu importe quelle est ta fonction sur cette terre ici-bas, tu es d'abord un croyant servant le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de tâche plus importante. Voilà pourquoi Paul va dire que ce n'est pas vain, ce n'est pas une tâche futile. Ici, quand on parle de vain, on ne parle pas nécessairement de la rétribution du salaire, mais on parle de l'importance de la justification de ce travail. Ce travail n'est pas vide de sens, n'est pas dépourvu de vérité, n'est pas destitué d'importance ou de sens ou comment je dirais, c'est pas quelque chose qui est futile, c'est une tâche qui est importante. Tu fais pas cette tâche-là comme tu serais tout simplement en train de peindre un mur pour le rendre un peu plus beau. Tu es en train de participer à l'avancement du royaume de Dieu et par ta participation, tu amènes des gens à connaître Jésus et à passer l'éternité en sa présence. Il n'y a vraiment aucune autre tâche aussi importante que celle de travailler pour Dieu. Et on dit quoi? Effectivement, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail se fait pour le maître, pour le propriétaire de la moisson. Ce n'est pas ton travail et ce n'est pas ta moisson. Tu travailles pour un maître. Tu travailles pour le maître de la moisson. C'est lui qui va profiter de l'œuvre de tes mains, du travail que tu mets de l'avant, des efforts que tu fournis. C'est son royaume, c'est son œuvre qui en bénéficie. Et voilà pourquoi tu dois t'appliquer. Parfois, on fait les choses pour soi-même et on a cette expression bien pensée qui dit « pas plus mal chaussé qu'un cordonnier ». Mais très souvent, c'est parce que lorsqu'on fait les choses pour nous-mêmes, on y va un peu vaille que vaille. Mais ça peut pas être comme ça pour le Seigneur. Lorsque tu travailles pour la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, la personne la plus importante de toute l'éternité, lorsque tu penses que tu travailles pour la personne la plus grande, la plus merveilleuse qui n'a jamais existé, comment tu pourrais travailler autrement qu'en donnant tout ce que tu as? Donc, ce travail-là est fait pour le Seigneur. Voilà pourquoi Paul rappelait le travail que vous le faites pour Dieu, pas pour vous-même. Alors, pensez lorsque je suis en train de témoigner, je suis en train de témoigner pour Jésus. Je dois le faire avec tout ce que j'ai. Je dois y mettre tout ce que j'ai. Je dois y mettre tous mes efforts et tout mon entrain. Lorsque je pense que je suis en train, moi le minable que je suis, moi le méprisable pécheur que je suis, moi le simple gracier que je suis, Dieu m'accorde cette grâce, ce privilège, cette bénédiction de pouvoir être un ouvrier auprès de lui, d'être à son service. Je ne peux pas le servir autrement qu'avec tout ce que j'ai. Et enfin, lorsqu'on parle encore une fois de Kyrios, on dit que ce travail se fait pour ton Seigneur, se fait pour ton Sauveur. Le Seigneur est le Sauveur de ta vie. Si j'étais en train de me noyer et qu'un sauveteur venait et risquait sa propre vie ou offrait sa propre vie pour plonger dans une mer infestée de requins et qui mugit avec des vagues terrifiantes et qui vient me chercher au prix de sa vie et qui me ramène jusqu'au rivage, pensez-vous que je ne lui devrais pas tout le restant de mon existence? Alors pensez à votre Seigneur et à votre Sauveur. Pouvez-vous vraiment lui donner autre chose que le restant de votre vie à le servir avec tout ce que vous avez, avec toutes vos forces? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors oui, le travail est une notion importante de la foi chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés pour être servis, mais nous sommes sauvés pour servir. Nous ne sommes pas sauvés pour nous reposer, mais nous sommes sauvés pour être des serviteurs à part entière de notre Seigneur et Sauveur. Et notre service se fait avec tout ce que nous avons, et surtout avec la bonne attitude, et avec tout notre cœur, et avec tout notre dévouement, et avec toute notre joie. Alors pensons ce matin, réfléchissons, ayons ce eido, ce terme grec qu'on a étudié en tout début de séance ce matin. Est-ce que je saisis? Est-ce que je perçois? Est-ce que je chéris le fait que je suis en train de travailler pour le Seigneur? Est-ce que ça m'emballe, oui ou non? Ou je trouve ça tout simplement comme une peine, comme quelque chose qui me tord le bras? Est-ce que c'est vraiment l'attitude que je vais avoir envers mon Seigneur? Il y a simplement toi qui peux y répondre pour toi-même, et je suis le seul qui peut répondre pour moi-même. On va prier pour terminer notre séance de ce matin, et après quoi on vous rappelle les annonces pour aujourd'hui et on salue quelques personnes. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps, Seigneur, que tu nous as donné. Oui, Seigneur, nous prions de vraiment saisir, de comprendre, de percevoir l'importance du travail que tu nous as appelés à faire. Seigneur, c'est une noble cause de travailler pour l'avancement de ton royaume. Il n'y a pas une tâche, Seigneur, plus importante que celle-là. Il n'y a pas un exercice qu'on pourrait faire qui serait plus louable que de travailler pour le royaume de Dieu et d'amener, Seigneur, des âmes à se tourner vers toi. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas ni mépriser le travail, ni la personne qui nous a engagés. Nous voulons t'honorer avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Merci de parler à ma sœur. Merci de parler à mon frère. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Laissez-moi juste vous donner une dernière pensée sur la question du travail. Notre dévouement pour un travail témoigne de notre attachement pour la cause que nous servons, pour la personne que nous servons. Je répète, notre dévouement à notre travail va témoigner de notre attachement envers la cause qu'on sert ou envers la personne que l'on sert. Alors, qu'est-ce que Dieu peut dire de mon dévouement et de mon engagement face à lui et face à son travail? Je vous laisse avec cette réflexion. Alors, nos rendez-vous pour aujourd'hui à 19h ce soir, notre temps de prière et d'intercession. On aura l'occasion de prier pour les thématiques de cette semaine et aussi par la suite de prendre vos requêtes afin de les présenter. Donc, de 19h à 20h, on vous invite à être branché pour ce temps d'intercession et de prière. On vous rappelle que d'environ 1 heure, la sœur Patricia va appeler les gens qui ont voulu s'inscrire pour notre assemblée de ce dimanche. On vous a déjà dit que d'ici quelque temps, les règles vont changer. Je sais qu'hier, on a annoncé qu'on pouvait passer à 250 personnes. Vous comprenez qu'il n'y a pas 250 personnes qui rentrent dans notre local avec les normes de distanciation et les normes d'hygiène et de salubrité qui sont de rigueur actuellement. Donc, oui, on va être plus nombreux que 30 ou 35 ou 50, mais on sera quand même pas 250. Donc, il y a des nouvelles règles qui vont s'appliquer. Donc, pour cette semaine et la semaine prochaine, c'est les 2 dernières occasions que vous avez si vous faites partie des 3 groupes qu'on a voulu honorer au tout départ. Donc, vous avez 55 ans et plus et vous êtes une personne seule. Vous êtes en couple, mais il y a un seul des deux qui fréquente l'église. Vous avez 55 ans et plus. Ou vous êtes en couple et un des deux a plus de 65 ans. Là aussi, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous appelez au numéro de l'église parce que je vous dirai juste quelques places pour ce dimanche. Donc, c'est le 514-273-8295. Dans 1 heure, ce sera déjà conclu, réglé, fini. Donc, si vous ne vous êtes pas inscrit, s'il vous plaît, appelez tout de suite, tout de suite, tout de suite pour réserver votre place. Quels sont nos prochains rendez-vous? Donc, ce soir à 19h, dimanche matin à 10h. Ceux qui ne peuvent pas être sur place ici, vous savez que nos assemblées sont retransmises sur les différentes plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser depuis le début de ce confinement. Facebook, YouTube, la page web de l'Église, Zoom aussi. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas être connecté. Même ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez écouter la prédication et l'assemblée à travers Zoom depuis votre téléphone avec un numéro que vous composez. Donc, on vous invite vraiment à profiter de tout cela. Alors, sur ce, permettez-moi juste de saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. On a Denise de Montagne, on a Soraya, bonjour à Soraya, aux garçons, à Benjamin, on a Pascal, bonjour à Gabriel aussi, bonjour à la sœur Samek, qui d'autre? Une personne qui s'appelle Merci d'exister, effectivement Merci d'exister, que Dieu vous bénisse. On a la sœur Nina, le frère Rigoberto qui sont présentement au Chili. Que Dieu les bénisse tout en bas de la carte, tout au sud. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénédiction sur Suze, sur Merest et sur toute la famille. Bonjour à Maggie Donoso. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis donc ce soir 19h ou sinon dimanche matin 10h, et pour les inscriptions vous avez moins d'une heure pour finir vos inscriptions, donc s'il vous plaît appelez le plus rapidement possible. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, à très bientôt et puis passez une bonne journée, on se revoit ce soir.